Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Bien, 5 ans après la promulgation de la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale, bon nombre des Congolais s'interrogent sur la mise en œuvre de cette réforme. Selon les prescrits de cette loi, la police doit pleinement jouer son rôle de protéger les personnes et leurs biens, de respecter les droits de l'homme et de fonctionner selon les normes internationales. Alors, que faut-il retenir à ces jours de la mise en œuvre de cette réforme? Je commence avec le commissaire supérieur adjoint, Johnny Siadi Matonsi, conseiller juridique du commissaire général de la police. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, la mise en œuvre de la réforme de la police par rapport au cadre légal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet?
Oui, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer en direct, et je salue tous les auditeurs de Radio Capi, et je tiens aussi à remercier le commissaire général, le général Bisenimana, qui a accepté notre présence ici. Ça prouve effectivement qu'il veut communiquer avec le public. Et pour ce qui concerne le cadre légal, pratiquement la mise en œuvre du cadre de la police nationale, il faut faire du moins rappeler à la population le cadre légal, parce que aujourd'hui il y a des textes qui sont pris qui n'étaient pas à l'époque. Nous avons pratiquement une loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, et qui est prise conformément à l'article 186 de la Constitution, parce que la police a une mission constitutionnelle de protéger du moins la sécurité publique, protéger les personnes et leurs biens, etc. Et vous comprendrez que en application de la Constitution, on a pris cette loi organique, mais en même temps, il y a aussi d'autres lois ordinaires qui ont été prises, notamment la loi portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, qui réglemente pratiquement la carrière du policier, du recrutement en passant par le déroulement de sa carrière jusqu'à la pré-carrière. Et il y a un certain nombre d'avantages qui sont reconnus aux policiers désormais conformément à cette loi. Et nous avons une autre loi de programmation qui a été prise. C'est une loi ordinaire. Cette loi permet au gouvernement pratiquement d'orienter dans le cadre de décaissement des fonds en considérant les projets qui vont au-delà d'une année. Vous savez, il y a la loi des finances se limite à une année. Et c'est-à-dire, on a le budget de l'année, mais il y a des projets du gouvernement, de la police, qui vont au-delà d'une année. Et pratiquement, dans ces cas, il y a ces textes. Outre ces textes de loi, et nous avons les textes d'application des lois, notamment les décrets qui portent organisation du commissariat général de la police nationale congolaise. Nous avons les décrets qui portent organisation des commissariats provinciaux. Et ce sont des textes qui n'existaient pas à l'époque. Aujourd'hui, nous avons aussi tant d'autres décrets, notamment le code de déontologie du policier, parce que le policier doit observer une certaine ligne de conduite, un comportement. Et nous avons, je dirais aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de police de proximité, pratiquement le partenariat qui est voulu par la loi organique, par les législateurs, on a mis en place une sorte de conseil local pour la sécurité de proximité. Il y a un décret qui existe qui permet à la police d'échanger avec la population autour de l'autorité politico-administrative. Donc je préfère me limiter à ça pour l'instant.
Par rapport aux violences sexuelles, les droits de l'homme.
Oui, effectivement.
Il y a aussi un cadre légal.
Dans l'organisation de la police nationale congolaise, et pratiquement dans le commissariat général au niveau national, on a dans la direction qu'on appelle sécurité publique un département de protection des enfants qui lutte sur la lutte contre les violences sexuelles. Au niveau provincial, il est institué également des unités et services dans ce sens. Pratiquement dans les commissariats, vous trouverez des poules qui prennent en charge les femmes et les enfants qui ont des difficultés dans ces cadres. Donc on pourra toujours développer.
D'accord. Alors monsieur le commissaire supérieur principal et directeur des ressources humaines de la police, Jean Bosco Ndonda, Kindi, dites-nous par rapport à cette réforme concrètement, qu'est-ce qui a été fait par rapport à la gestion des ressources humaines au niveau de la police nationale congolaise?
Bien, merci. Je voudrais pas entrer dans le détail. Vous savez que nous sommes en train de courir avec le temps. Et par rapport à la gestion des ressources humaines, ce que je peux dire, que nous avons parcouru un long chemin dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je peux l'affirmer avec fierté que le premier objectif majeur que nous recherchons à atteindre, c'est celui de maîtriser les effectifs. Nous y sommes arrivés. Et pour y arriver, on est passé par plusieurs étapes, comme vous le savez. La grande étape qui nous a permis justement d'arriver à maîtriser les effectifs, c'est les différentes collectes de données qui ont été organisées à travers le pays. Depuis 2010, 2011, 2013 et tout dernièrement en 2015. Nous avons bouclé avec toutes les provinces pour identifier les policiers. Aujourd'hui, nous avons une base de données qui nous renseigne avec précision combien de policiers nous avons en RDC. Donc ça, au moins, globalement, j'ai peut-être donné cette réponse par rapport à votre question. Mais sinon, les autres étapes dans le cadre de la gestion des ressources humaines, nous les poursuivons parce que les effectifs, oui, nous les avons, mais il faut les gérer.
Et pour les gérer, il faut aussi recruter.
Absolument.
Oui.
Il faut les gérer. C'est-à-dire qu'en gérant les effectifs, c'est là où on va retrouver justement les besoins de recruter. On va retrouver les besoins de mettre à la retraite et donc de faire un dégagement. Donc voilà, ce sont des étapes qui nous préoccupent maintenant et nous sommes en train d'y aller sûrement.
Voilà. Alors, à part ça, la maîtrise des effectifs, qu'est-ce qui est encore fait au niveau des ressources humaines, la gestion des la carrière du policier?
Par rapport à la gestion proprement dite, le projet a acquis dans ce cadre un outil pour la gestion automatisée des effectifs de la police nationale congolaise. Et nous disposons de cet outil-là aujourd'hui. Le logiciel dont il a été question, je crois que vous avez entendu parler de ça parce qu'une fois, nous en avons fait allusion sur les antennes de la radio Capi. Et je crois que...
Là, c'est géré de manière informatique, un logiciel
tout à pour fait,
gérer.
Tout à fait, nous avons un logiciel pour
gérer. Vous savez
qu'à
Kananga, nous avons autant de policiers.
Absolument, et aujourd'hui, je peux vous dire avec précision que lorsque vous me citez le nom d'un policier, je peux vous dire où il est à cet instant. Où il est affecté à cet instant. Même si c'est dans un souci de qui est au fin fond du pays, nous le savons parce que l'outil de travail que nous avons aujourd'hui nous permet justement de délocaliser les policiers, de savoir qu'est-ce qu'il exerce comme fonction partout où il est. Et donc par rapport à ça, j'ai dit que l'outil de travail est mis en place. On est en train de travailler là-dessus. Il y a des petits préalables qu'il faut remplir, bien entendu, pour pouvoir mettre cet outil vraiment alors au service de la gestion des ressources humaines. Et le petit travail qui est à faire justement, nous sommes dans le cadre de l'élaboration des procédures. On a déjà terminé pratiquement une grande partie des procédures de gestion des ressources humaines. On en a déjà parlé. Et là, on est en train de préparer tous les outils nécessaires pour paramétrer ces logiciels de manière à ce qu'ils puissent répondre aux requêtes que nous allons lui adresser à tout moment qu'on aura besoin de résoudre une question.
Donc aujourd'hui, on peut facilement mettre la main sur les faux policiers, hein, parce que tous les policiers
sont
répertoriés.
Là, de ce côté-là, aucun souci.
Aucun souci,
parce qu'aujourd'hui, chaque policier détient une carte de service infalsifiable. Et donc, cette carte-là, personne d'autre ne peut la détenir si ce n'est qu'un policier. Un faux policier, il ne peut détenir qu'une fausse carte. Et une fausse carte ne pourra pas passer par nos lecteurs d'empreintes.
D'accord. Nous avons également Mme Betty Mouya, coordonnatrice de suivi et évaluation au secrétariat exécutif du comité des suivis de la réforme de la police. Alors, Mme Betty, vous faites le suivi. Dites-nous, aujourd'hui, nous sommes à quel niveau?
Oui, nous faisons le suivi évaluation de la réforme de la police, donc des projets, et notamment du plan d'action quinquennal. À ce jour, nous disons avec satisfaction qu'il y a 96 réalisations, donc 68% sur l'ensemble des actions qui ont été planifiées dans le plan d'action quinquennal.
Lesquelles, par exemple? Citez 141. Les grandes actions, oui, planifiées.
Alors, ces actions qui sont des actions réalisées sont en fait des actions que certaines sont en cours. Mais nous avons déjà des avancées. La première avancée, pour ne pas parler peut-être, je vais parler des actions elles-mêmes. Il y a la mise en place de la nouvelle organisation de la police. Aujourd'hui, nous avons les trois piliers de la police qui sont là, grâce au cadre légal qui a été mis, qui est sur pied. Donc nous avons le commissariat général, nous avons l'inspection générale PNC et le conseil supérieur de la police. Donc en fait les trois piliers existent. S'agissant du commissariat général PNC, là nous voyons également de grandes avancées au niveau justement des structures qui sont mises en place. Donc cette restructuration qui est conforme à la loi organique. Et au cours de cette restructuration, nous pouvons dire que les choses, les structures sont déjà posées, mais évidemment, il faut leur renforcement. Et là, je parlerai par exemple, j'évoquerai le cas du département, n'est-ce pas, en charge de la prévention de la lutte, n'est-ce pas, contre les violences sexuelles, la protection de l'enfant. Il y a déjà un département. Bien sûr, il faut la consolidation. La consolidation, c'est aussi la formation. Mais nous avons également la réorganisation de la police judiciaire, n'est-ce pas, qui a regroupé en son sein, n'est-ce pas, la police judiciaire des parquets, le BSN Interpol, n'est-ce pas? Et tout cela existe actuellement. Nous avons une coordination police-judiciaire qui comprend 18 directions. Mais le tout, évidemment, il faut une consolidation en termes des textes d'application, c'est-à-dire des décrets, des arrêtés et des mesures complémentaires pour qu'il y ait un fonctionnement global harmonieux. Mais également l'affectation du personnel à tous les niveaux. Actuellement, nous avons du personnel au niveau central, des directions et tout ça, mais il faut les compléter. Il faut aussi compléter au niveau des subdivisions, donc des départements, mais également des bureaux, pour que la machine puisse tourner. J'évoquerai également une action importante qui a une réelle avancée, c'est la mise en œuvre de la police de proximité qui est précédée d'abord par une phase d'expérimentation qui venait de prouver, n'est-ce pas, que la police a adopté réellement un mode de fonctionnement qui lui permet de travailler
se rapprocher
de la population.
D'accord. Nous avons déjà des auditeurs qui vous écoutent à travers le pays et qui voudraient vous poser des questions. Professeur Ignace Ndala nous appelle de Kolwezi et Dieu merci à Sanjo et à Kisangani. Vous voulez participer, le standard est déjà ouvert. Composez les 081-890-63-94.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Réforme de la police, quelles sont les réalisations menées sur terrain? Professeur Ignace Ndala, vous êtes à Kolwezi, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, je dis bonjour les invités. Je comprends déjà que la question que je suis en train de poser est en train de trouver sa réponse, parce que madame tout à l'heure l'a abordée. Je veux beaucoup plus parler de la mise en œuvre de la police de proximité. Cette notion-là paraît un peu... pas très explicité, dans sa pratique. Je veux comprendre exactement que les invités nous en parlent davantage pour que le commun des mortels puisse comprendre. Est-ce que police de proximité, c'est simplement placer des camps de police à côté ou permettre aux policiers de parler de la police en tant que service public à la population, ou il s'agit aussi d'organiser certains travaux, par exemple, d'intérêt communautaire, où on voit la police s'impliquer, par exemple, les travaux de l'assainissement de milieu, problème d'aménagement de l'environnement et toute autre situation. Ça, c'est ma première préoccupation. Je veux qu'on analyse, qu'on en parle un peu plus.
Oui.
Mais il y a aussi un autre problème, parce que je sens que par rapport à la présentation, la peur quand on voit un policier aujourd'hui continue à nous hanter, ça continue un peu partout. Alors, je voudrais aussi dire quelque chose par rapport à l'infrastructure. Est-ce que dans cette réforme, on a mis un accent sur cet aspect? Parce qu'on trouve aujourd'hui tantôt des quartiers où il n'y a pas d'éléments de police parce qu'il n'y a pas de cachot, il n'y a pas d'endroit où ils peuvent se placer, ou alors on les trouve dans, excusez-moi parce que nous les vivons, dans des containers. Vous voyez ce genre de situation. Voilà mes deux préoccupations.
Merci Dieu, merci Assange, vous êtes à Kisangani. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour à la radio Capi ainsi qu'à tous nos invités.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, moi je voulais savoir si la réforme aussi a tenu compte de l'aspect permutation, parce que nous assistons de plus en plus à des policiers, on dit que policiers nationales, police nationale congolaise, mais nous assistons de plus en plus à des policiers provinciales, donc depuis qu'il a été recruté, il n'a jamais été dans d'autres provinces, alors que nous savons le changement des milieux influence dans le changement des comportements. Et deuxième préoccupation, je voulais savoir s'il y a un accent mis sur l'unité de la police de circulation routière, parce qu'ils sont accusés des manques de professionnalisation et des tracasseries policières. Je voulais savoir vraiment s'il y a un accent particulier sur l'unité de police de circulation routière au sujet de la réforme.
Merci, Dieu merci, à Sanjo de Kisangani. Gaël Dixon, vous nous appelez de Lubumbashi. Bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, Jody, bonjour aussi aux invités. Je voulais juste poser la question par rapport au sujet du jour, parce que les invités nous ont parlé de la réforme de la police. Est-ce que il se situe aussi au niveau de, ils tiennent compte aussi par rapport au niveau de l'intellectualisme, c'est-à-dire les gens, les policiers qui ont étudié, parce qu'aujourd'hui nous voyons pas mal de policiers et ne sont pas passés sur le banc de l'école. Vous voyez, vous allez comprendre que il y a certains policiers qui ne respectent pas les droits de l'homme. Imaginez-vous, à 18h, nous étions avec un ami qui, on nous avait arrêté. Alors moi, ils m'ont vu comme mineur. Alors l'ami là était un peu costaud. On lui a demandé de guider le pièce d'identité. Il a sorti la carte d'électeur. Directement, à ma vue, ils ont pris cette carte d'électeur, ils l'ont déchirée. Alors, je ne sais pas si ça tient aussi compte de ça, mais aussi quand l'ami s'est mis à parler le français, comme le policier parlait à Lingala, ils l'ont pris comme un impoli. Ils n'ont pas voulu entendre ce que l'ami voulait dire. Alors, c'est quelque chose qui m'avait pas plu. Moi, j'avais pris fuite. Ils l'ont pris, c'était autour de 19h vers 20h, ils l'ont relâché autour de 5h. Donc, ils ont fait patrie avec cet ami-là, jusqu'à ce que l'ami est venu de dire, il avait le téléphone, il avait l'argent, tout ce qu'il avait comme bien dans sa poche. Oui,
tout a été emporté. D'accord. Merci, Gaël. Merci, Gaël. Maître Gaston Kimbenza, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, et quelle est votre question?
Oui, merci. Ce n'est pas Maître Gaston, c'est Monsieur Gaston, tout simplement.
C'est Monsieur Gaston, voilà, Tati.
Oui, en suivant bien les invités, j'ai compris que la réforme a beaucoup plus les plans structurels, les plans, en fait, matériels qu'ils ont eu. Mais moi, je croyais que la réforme devait toucher le fonctionnement, les réactions sur le terrain. J'ai un exemple concret, et c'est moi qui suis concerné personnellement avec la police de l'Interpol. Il y a un monsieur ici dans le pays qui a escroqué, qui nous a escroqué plus de 400 000 dollars. Moi, j'ai été voir les interprètes de l'Interpol, sachant qu'il y a des réformes qu'ils ont subies, donc ils ont changé les façons de travailler. Ils m'ont reçu, ils m'ont auditionné. Je vous dis, j'ai appelé parce que vous avez parlé de beaucoup d'inspecteurs qui sont là avec vous au plateau. Ils m'ont jamais rappelé. Toutes les fois que j'appelle, ils m'ont dit qu'ils ont seulement envoyé pour seulement prendre l'identité de la personne concernée au niveau de la BGM. Aujourd'hui, c'est 2 mois. Alors, je me demande, cette réforme sert à quoi? Ou bien, c'est dans les fonctionnements, tout simplement. Et j'appelle l'OPJ qui m'a auditionné dans le bureau du directeur de l'Interpol. Mon numéro est là. Je suis le président du collectif de tous les clients qui ont été roulés. Le monsieur est bel et bien en Tanzanie. Il a un numéro de téléphone qui passe. Il a un email qui passe. Avec le système d'Interpol, ce monsieur peut être ramené à quelque chose. Ça. Aucune action concrète. Ce que j'ai dit, mon numéro. Prenez la radio Capi, tous ceux qui sont là peuvent me recevoir. Et quand j'appelle Interpol, on me dit, la DGM ne nous a jamais donné l'identité et les différents mouvements de ces messieurs. Il s'appelle Jules Gomanda. Alors, quelle est l'efficacité de toutes ces réformes si ce n'est que bousiller l'argent que nous contribuons à l'État? Parce que ces réformes coûtent de l'argent. Nous aimerions bien comprendre ces réformes dans les actions concrètes.
D'accord.
Le dossier que moi je préside nous a coûté 400 000 dollars. C'est un dossier que Radio Capi connaît, un monsieur à qui on commandait des véhicules, mais qui ne nous a pas livré. Et il va que librement en Tanzanie. Il fait Tanzanie, Kasumbalé, fait Tanzanie, Lubumbashi. Mais pour ne fût-ce qu'avoir l'identité de ces messieurs, la DGM, l'Interpol de Kinshasa ici est incapable de faire ça.
D'accord.
Je ne comprends pas.
Merci Gaston. Félicien Kindoula, vous êtes à Kinshasa. Quelle est votre question? Soyez bref, hein. On n'a plus beaucoup de temps. Allez-y rapidement.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que la réforme a apporté comme changement quel est le résultat obtenu maintenant depuis qu'il y a la réforme. Et puis, je voudrais savoir si sans motivation de l'homme, et l'organisation structurelle dont on parle, qui a changé, peut apporter quelque chose, parce que les conditions de vie des policiers n'ont pas changé. Vous voyez les logements, vous voyez la sol qu'on lui donne, et tout ça. Qu'est-ce qui peut changer dans le vécu quotidien des policiers avec la population?
D'accord. Merci, Félicien Kindoula. Merci à tous les auditeurs pour toutes ces questions. Je commence avec vous, monsieur le commissaire adjoint supérieur. Johnny Siadi Matonsi, vous avez la parole.
Oui, je vous remercie pour... Du moins, je remercie les auditeurs pour toutes les questions posées. Ça prouve effectivement qu'ils ont intérêt au changement opéré pour notre police. Parce que qui dit la réforme dit changement. Je commence pratiquement par la première question. C'était le professeur Ignace, si je me trompe pas. Il a posé la question...
Il veut comprendre la proximité police de proximité, c'est quoi en fait?
Oui, en tant que professeur, je préfère mieux parler avec lui, avec des termes pratiquement légaux. Et nous avons, pour ce qui concerne la police des proximités, ça a été consacré, du moins c'est consacré dans notre loi organique, comme du moins la police devient une police accessible. Il y a un partenariat qui est créé légalement par notre loi.
C'est-à-dire quoi? La police se rapproche, les camps des policiers se rapprochent de milliers d'habitations, et les policiers vont faire des travaux d'assainissement, c'est ça que ça veut dire?
Bon, je préfère mieux que la notion d'abord de police de proximité soit bien maîtrisée, et par lui-même et par tous ceux qui nous suivent. Et il faudrait qu'il voie aussi les décrets qui créent les conseils locaux, du moins les conseils locaux pour les conseils locaux pour la sécurité de proximité. À l'article 1er, il verra pratiquement la définition de la police de proximité, où on présente cette police de proximité comme un mode de fonctionnement qui de collaboration entre la police et la population, en recherchant des solutions aux problèmes qui sont constatés dans la société ensemble.
Concrètement, comment les policiers vont se mettre ensemble avec la population pour tenir des réunions?
Prenons par exemple dans un village où il pleut et qu'il y a inondation. Et les enfants, lorsqu'ils vont dans le village voisin, il y a ceux qui sont noyés. Il y a trouble à l'ordre public. Alors, la police est là pour chercher des solutions aux problèmes qu'on constate, et il y a des projets locaux qui sont faits ensemble, et la police participe avec tous autour de l'autorité politico-administrative.
D'accord.
Donc, la police participe effectivement, mais avec sa mission principale.
D'accord.
Ça, c'est pour ces
points. Madame Betty, veut ajouter?
Voilà, pour répondre vraiment à cette question, moi, je dirais que la police de proximité, évidemment, c'est un mode de fonctionnement de la police, n'est-ce pas, qui a été mise en œuvre par l'expérimentation qui vient de s'achever.
Oui.
Mais là, qu'est-ce qu'on a mis comme approche pour arriver à des résultats? Premièrement, la formation des policiers. Parce que vous n'ignorez pas, chers auditeurs, que les policiers que nous avons actuellement, en majeure partie, n'ont jamais été formés. Alors, lors de l'expérimentation de la police de proximité, on a mis l'accent sur la formation. Donc, justement, pour transformer le policier, afin qu'il comprenne c'est quoi le métier du policier. La majorité des policiers en fonction sont formés sur le tas, ou à travers des formations.
Vous avez même suivi un auditeur qui a parlé de ça, les niveaux d'études.
C'est ça, ou à travers des formations ad hoc, mais ils maîtrisent pas vraiment c'est quoi le métier de la police. Et donc, la formation a pu modeler ces gens-là, les transformer, et ils ont compris, on a vu lors des évaluations sur le terrain, que les policiers comprennent mieux, et même se gênent, n'est-ce pas, de pouvoir tracasser la population. Mais il y a également l'amélioration des conditions de travail. Parce que quand les policiers travaillent dans de bonnes conditions, quand les policiers sont formés, ils peuvent offrir des services de qualité à la population. Mais ce qui est très important dans la police de proximité, c'est la participation de toutes les parties prenantes, notamment la population, à la recherche des causes, des solutions à sa sécurité au niveau local, au niveau du quartier, au niveau de la commune, au niveau de la chefferie du village, que la police n'est pas la seule à donner des réponses aux problèmes d'insécurité, mais la population participe en recherchant les causes. D'où les cadres de concertation basés sur sur justement le décret qui existe, donc c'est vraiment légal.
Mais vous avez suivi Ignace Ndala qui dit qu'il y a un problème au niveau des infrastructures. La police, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de
cachot. Oui, je veux dire que...
Les policiers sont dans
des conteneurs. Les auditeurs, la population qui nous suit, toutes les parties prenantes, doivent comprendre que la réforme est un processus. Nous partons d'où, nous allons vers où. Et quel est l'état de notre pays, un pays post-conflit, avec tout ce qu'on a eu comme problème, n'est-ce pas? Et que maintenant, la réforme, c'est pour arriver à améliorer. Et déjà, maintenant, il y a des bons résultats. Quand je regarde l'évaluation du plan d'action quinquennal, je vois que dans l'axe D, appui et gestion, je vois là-bas, pour les infrastructures, il y a déjà quelques avancées.
Lesquelles?
Il y a quelques avancées. Par exemple, aujourd'hui, nous avons dans les villes pilotes, c'est-à-dire Kananga, Matadi, Bukavu, Bunia, nous avons des commissariats construits, des commissariats bien équipés, avec des policiers formés, un commandement formé, et qui travaille dans le respect des droits de l'homme, qui travaille également sur les principes même du travail du policier. Donc, il y a ça. Nous avons également des commissariats provinciaux qui sont construits dans ces pays, et au Nord Kivu également, n'est-ce pas, pour que, justement, le commandement de la police au niveau provincial, au niveau central, puisse être dans de bonnes conditions, n'est-ce pas, avoir tout l'équipement informatique qu'il faut, la communication, les moyens de déplacement, afin d'être proactif et actif. Ça, c'est au niveau de l'expérimentation, et cette police de proximité doit maintenant être étendue à travers tout le territoire congolais, c'est-à-dire que c'est un défi. Et le défi en question, ça interpelle le gouvernement, ça interpelle la police, la PNC.
Mais quand un policier arrive à déchirer la carte d'électeur,
oui, mais écoutez, s'il vous plaît, il faut savoir qu'il y aura toujours des abus. Il y a aujourd'hui et encore des abus, mais aussi je dois dire que le processus de la formation dans un pays vaste comme la RDC, avec des recoins et recoins, donc la capacité de former, elle est moindre. Parce que, d'abord, premièrement, les écoles de police ne sont pas encore construites, n'est-ce pas? Il est prévu dans le plan d'action quinquennal la construction au moins, n'est-ce pas, de 3 écoles de la police, la réhabilitation des centres d'instruction existants pour que ces centres aient la capacité de pouvoir former, mais également le financement de la formation. Au sein de la police, nous avons aujourd'hui la direction générale école et formation, n'est-ce pas, qui est déjà à pied d'œuvre organisée, l'académie de police qui est en construction, mais au moins des modules et des blocs programmes
existent. La loi
existe.
De programmation a prévu des financements à échéance,
oui, voilà, donc il n'y a pas de financement, mais il y a quand même cette bonne volonté de la police, pas seulement la police, mais également les partenaires, dont la MONUSCO, pour former les policiers. Messieurs, dames, doivent comprendre que dans cet effort de professionnalisation de la police, on y va mollo, mais sûrement, mais il faut que tout le monde s'y mette. Il faut comprendre aussi, je parlais également des grands changements qu'il y a. Aujourd'hui, il y a quand même des avancées, des changements réels constatés.
D'accord.
Par exemple,
je reviens à vous dans quelques instants, le temps de donner la parole au commissaire supérieur principal et à quelqu'un, Dieu merci, de Kisangani, qui a parlé de la permutation des policiers. Et Félicien parlait de, on parle de la réforme, mais qu'est-ce qui a changé sur le vécu quotidien du policier, le salaire, les conditions de vie, monsieur le commissaire?
Tout à fait. Merci beaucoup pour les deux. J'en ai compté au moins 3, dont les questions concernent justement la matière que nous traitons au quotidien. Commençant par l'intervenant qui pose la question sur les permutations, c'est tout à fait normal parce que le constat, c'est pas lui le premier à le faire. Le dirigeant de la PNC, l'autorité au plus haut niveau, a fait ce constat-là depuis longtemps, de sorte que les dernières mises en place qui ont été publiées l'ont été sur base d'un critère. Mettre en mutation tous les officiers, tous les policiers qui ont fait plus de 5 ans dans un poste. Les éloigner du poste où ils sont pour qu'ils aillent sous l'autre sujet. Je crois que de ce côté-là, le souci de l'auditeur est tout à fait fondé, mais l'autorité a déjà pris soin de pouvoir répondre à sa préoccupation sans qu'il ne l'ait su. Voilà. Et il voulait également savoir si la police de circulation routière est aussi prise en compte dans le cadre de la réforme. Mais bien entendu, la PCR, comme vous le savez, c'est le miroir de la police. Hein, parce qu'au fait, c'est elle qui est la première vue lorsque vous arrivez au Congo. Les premiers policiers que vous allez rencontrer sur la route, ce sont les policiers de circulation routière. Et donc, de ce côté-là, il y a un effort qui est en train d'être fait. Dernièrement, je crois que, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le suivre, des séminaires, des formations, de recyclage pour pouvoir justement relever les niveaux de formation, relever les niveaux d'accueil de ce personnel qui est exposé au quotidien à la vue de la population. Et ça, c'est, je crois que s'il y a des cas...
Et ceux qui fracassent la population...
Ce sont des cas isolés, s'il vous plaît. Ce sont des cas isolés, et les cas isolés, nous n'allons pas en faire une règle ici.
Mais nous combattons, bien entendu. Nous
condamnons ces cas de déviation. Nous les condamnons. Et toute la fois qu'on tombe sur un policier de circulation routière qui pose un acte contraire à la déontologie, eh bien, il est sanctionné. Il est sanctionné. C'est comme ça que vous faites, d'ailleurs, la plupart de nos carrefours ici à Kinshasa ne sont plus garnis comme à l'époque. Hein. On a mis de côté tous les mauvais fruits. Et actuellement, les policiers que vous trouvez sur la route, pour la plupart, ce sont des gens qu'on a jugés être des hommes intègres. Voilà.
Alors, revenons par exemple, dernièrement, lors de la dernière mission, un auditeur a appelé de Lubumbashi.
Oui.
C'était un commissaire, voilà, qui avait dénoncé la présence d'une personne qui ne devait pas être là dans la police. Et puis, il est sanctionné. On lui a dit de ne plus mettre ses pieds dans les enceintes de la police. Et c'est là depuis plus de 2 ans. C'était lors de la dernière mission qu'il y a eu un cas pareil.
C'est-à-dire un cas d'un policier irrégulier, si vous voulez.
Alors, il veut savoir s'il est suspendu, il est sanctionné, comment, il est dans quelle situation?
Naturellement,
par rapport à l'administration.
Non, vous savez, lorsque un policier est pris en flagrant délit, si c'est par rapport à ça, à la discipline, nous sanctionnons. Si c'est par rapport à la mise à sa disposition de l'auditorat, il est mis à la disposition de la justice. S'il a posé un acte qui enfreint la loi. Vous comprenez? Donc, soyez sûr que tous les policiers qui posent les actes, pour autant que ces actes ne répondent pas à la loi, eh bien, ils sont sanctionnés, soit disciplinairement, soit sur le plan de la justice.
Oui, monsieur le commissaire.
Voilà. Je voulais aborder un aspect de la question très importante ici.
Oui.
Parce que l'auditeur qui vient de poser la question pour savoir si à la police on tient quand même compte de l'intellectualisme. Mais enfin.
Le niveau d'études.
Moi, je me dis, c'est tout à fait normal qu'il pose cette question. Et je le renverrai, s'il a le temps de lire le texte, aux différents critères qui sont aligné pour pouvoir faire partie du corps de la police. Et parmi ces critères, il y en a un qui souligne que le candidat devra fournir les titres scolaires requis pour être recruté. C'est-à-dire quoi? En fait,
obtenu au moins les diplômes d'État.
Le diplôme d'État, ça c'est le minimum. Actuellement, pour que vous puissiez faire
partie
de la police.
Mais avant, il y a d'autres éléments qui ont été recrutés sans diplôme d'État.
Mais vous savez très très bien que cette police qui venait de naître a vu à accueillir en son sein des différentes personnalités venant de tous les horizons. De la vie civile.
Sans tenir compte du niveau d'études.
C'est vrai, il y a eu des cas. Nous sommes en train de corriger tout ça.
D'accord.
Nous sommes en train de corriger tout ça.
Je reviens à vous, le temps d'accueillir 2 autres auditeurs. Patrick Tuba, là, vous êtes Tati, vous n'avez pas indiqué où est-ce qu'il est. Et puis nous avons François Chérubin de Kindou. Patrick Tuba, là, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Quelle est votre question?
Eh oui, moi je voudrais dire d'emblée que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le commissaire qui vient de parler tout à l'heure, quand il dit que les abus sont isolés. Je pense que c'est pas vrai, je le dis avec tout le respect que je leur dois, avec tous ceux qui sont sur le plateau. Il est vrai que la réforme est palpable, mais j'ai envie de dire que cette réforme est juste statutaire. Ça se constate juste sur papier, tous les documents qui sont mis sur pied pour... aborder cette réforme. Mais dans les vécus quotidiens, je peux vous assurer que nous sommes du domaine, nous évoluons dans le domaine judiciaire, c'est notre vie de tous les jours. Je peux vous dire que il n'y a quasiment pas de réforme sur terrain, c'est-à-dire dans la mise en œuvre du judiciaire, c'est-à-dire nous retrouvons les mêmes policiers qu'avant la réforme. Et nous avons l'impression que rien n'est fait pour que la qualité des services des policiers soit améliorée. J'insiste risque bien que cela est sur papier. Quand vous regardez les documents, c'est merveilleux, ça nous donne le droit de rêver. Mais dans le vécu quotidien, dans la pratique, je vous assure que ce ne sont pas de cas isolés. La police se caractérise en général par des hommes, pardonnez-moi, je ne veux pas choquer, mais nous avons l'impression qu'il y a des voyous dans la police, des gens qui n'ont aucun respect pour les bénéficiaires de leurs services. Ah, mais que ce soit les officiers, les sous-officiers, je vous dis que ce sont des choses dramatiques que nous vivons au quotidien parce que nous sommes avocats. Alors, nous voulons vraiment qu'ils reconnaissent qu'il ne s'agit pas des cas isolés, mais il s'agit vraiment des vices caractéristiques de la police congolaise.
Merci, moi, Patrick Tshibala. Merci.
Et contribuons à faire avancer cette réforme.
Merci. Voilà. Merci beaucoup, François. Vous êtes à Kindu, Marcel Mwamba Lumbashi. Alors, soyez bref dans vos interventions. On n'a plus assez de temps. François, vous êtes de Kindu. Bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, ma question est celle-ci. Moi, je ne suis pas d'accord avec les invités. Je ne suis pas d'accord dans quel sens les policiers actuels sont en train d'afficher un comportement vraiment qui ne prouve pas qu'il y a déjà une formation à partir de leur intention. Nous avons assisté à Kindu à une formation qu'on a dit que non, c'est la formation des policiers, officiers. Mais vous allez voir présentement, c'est que les policiers sont en train d'afficher dans des patrouilles. Vraiment, il n'y a pas un changement. Il n'y a pas un changement. Malgré qu'ils sont en train de dire qu'il y a une réforme, mais ils doivent d'abord commencer à former les anciens policiers pour venir maintenant à la formation des nouveaux policiers. C'est qui est un peu mon
votre contribution, oui. Merci. Marcel Mwamba. Oui, on n'a plus assez de temps. Merci. Marcel Mwamba, vous êtes à Lubumbashi. Quelle est votre question rapidement?
Oui, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Moi, je suis en train vraiment de discuter et de m'inscrire en faux contre tout ce que les officiers, les invités de la police viennent de parler là. Parce que ce que nous vivons sur le terrain avec notre police, c'est vraiment honteux. Vraiment honteux, pourquoi? Parce qu'il y a des moments où vous appelez même la police la nuit pour une intervention. Lorsque vous avez de la visite à la maison, vous avez des voleurs et consorts, on vous demande de l'argent pour que la police se déplace de là où elle est pour venir dans une intervention. Moi, je ne sais pas si nous avons une police qui couvre même les 24 heures pour sécuriser la population. Parce que ce que je venais de vous dire ici, c'est un cas déjà vécu. Et vous êtes agressé la nuit, vous appelez la police, les commandants vous disent que non, je suis chez moi, je dors. Ou des fois, les numéros de la police ne passent pas. Ou des fois, quand ils viennent en intervention, ils vous demandent du carburant. Et des fois même, vous vous retrouvez dans l'impossibilité de pouvoir pallier à tous ces problèmes. Ça, c'est le premier point. Parler de la réforme, moi, je pense que c'est vraiment honteux si notre, dans un grand pays aujourd'hui, on est en train de parler de la réforme d'une police. Moi, je ne sais pas s'il y a eu même des critères de recrutement. Parce que aujourd'hui, quand vous appelez même une police, vous êtes agressé par un clown en ville ou par un chéquier, vous appelez la police, c'est vous la personne qui a l'argent à main qu'on doit piller sur vous. Et le clown qui vous a agressé là-bas, et c'est parce qu'on trouve que chez lui, on ne va rien trouver.
Merci Marcel.
En tout cas, nous...
Merci Marcel de Lubumbashi. Alors je reviens à vous, on n'a plus assez de temps, soyez bref dans vos interventions. Il y a le cas du policier qu'on a évoqué, le commissaire qui avait appelé de Lubumbashi lors de la dernière émission. Et puis quelqu'un a parlé de Interpol. Hein. Quelqu'un lui a escroqué un gros montant. Il a parlé je crois de 400 000 $ pour la livraison des véhicules. La personne a fui en Tanzanie et Interpol n'a pas donné satisfaction à sa demande. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à monsieur le commissaire adjoint Johnny Siadi?
Oui, je commence d'abord par celui de l'Interpol. Pour lui rappeler que Interpol est là juste pour assurer une sorte de liaison avec...
Restez devant votre micro, approchez-vous.
Oui, merci beaucoup. Mmh. Et donc Interpol ne remplace pas la justice. L'Interpol est pratiquement une direction au niveau de la police nationale, c'est BCN Interpol, c'est la direction qui est comme bureau central national Interpol. Mmh. Et ça a été mis en place pour servir des liaisons avec les divers services publics nationaux et aussi avec les bureaux nationaux au niveau international, le secrétariat général de l'Organisation internationale de la police.
Alors pour être bref, qu'est-ce que
que vous conseillez à M. Gaston Kimbenza de faire maintenant pour recouvrer ses 400 000 dollars?
Bon, pratiquement, il a bien fait de contacter ses bureaux parce que il s'agit d'une affaire qui est maintenant à l'ordre international et la procédure est quand même observée. Et donc, il peut peut-être vouloir obtenir la réponse aujourd'hui, mais c'est sûr que les enquêtes obéissent à certaines procédures. Et je crois, à mon avis, qu'il doit faire confiance à notre police, pratiquement aux agents là où il s'est présenté, et parce que on lui rappelle qu'il y a une procédure qui doit être observée au niveau aussi international. Il y a des enquêtes qui sont menées et dès que le dossier est ouvert, dès qu'il y aura une réponse favorable, on lui fera sûrement.
Alors par rapport au commissaire de la Tanzanie qui avait appelé, le commissaire qui avait appelé de Lubumbashi la fois passée, on lui a interdit de ne pas mettre ses pieds dans les installations de la police, mais il continue à percevoir son salaire. Il veut savoir c'est quel type de sanctions là.
D'abord, le fait de continuer à percevoir son salaire, ça suppose que il n'a jamais été sanctionné. Et donc, il demeure policier.
Mais vous avez suivi quand même le cas.
Oui, nous avons suivi la fois passée avec le général Elessé. Je crois, à mon avis, que en tant que commissaire, il connaît la procédure, il doit suivre la procédure administrative et au cas où ça n'aboutit pas, il doit saisir l'autorité hiérarchique. D'accord. Il faut un courrier et puis suivre en bonne et due forme.
Voilà, commissaire supérieur Jean Bosco, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je crois que je voudrais bien répliquer par rapport aux différents intervenants qui viennent se prononcer et qui portent un jugement presque négatif par rapport aux actions de la PNC. C'est dommage parce que vous comprendrez l'importance d'une police les jours où cette police n'est pas là. Il suffit simplement, aussi dans la ville de Kinshasa, qu'en une seule journée, qu'il n'y ait pas une présence policière sur la route, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ces gens-là sont importants et réellement, ils font le travail. Donc, si moi, j'ai parlé des cas isolés, des comportements de certains policiers, je crois que ça, c'est tout à fait normal que cela soit dit de cette façon-là. Les cas isolés, on ne peut pas en faire des règles. Pour généraliser, pour dire voilà, non, dans l'ensemble, la police nationale congolaise ne fait absolument rien. Ce qui est faux, ce qui est archi faux, parce que partout où elle existe, la police assure la sécurité des personnes et de leurs biens.
La réforme ne s'est pas limitée seulement sur de beaux textes.
Pas du tout. Les auditeurs veulent donner l'impression comme si le résultat de la réforme, c'est en une journée. En 24 heures, non. C'est un long processus. Et nous avons franchi des étapes importantes. Et je crois que, avec le temps, je crois que ça sera perceptible. Les actions ou les effets de la réforme vont se sentir sur le plan pratique avec le temps. Mais nous qui sommes dedans, nous sentons qu'il y a des avancées. Et bien entendu, vous savez, la population, comme venait de le dire ma collègue à gauche ici, le Congo est trop grand, c'est vrai. Le Congo est grand et qu'aujourd'hui, le nombre de policiers effectifs de la PNC que nous avons peut-être ne répondent pas efficacement. C'est vrai. Mais au moins, ceux qui existent, ils font le travail 24 heures sur 24. Et nous, tout cela, je ne pense pas que nous, on pouvait se trouver ici.
D'accord. Mais on va terminer avec Madame Betty.
Oui, ok. Moi, à toutes ces questions, je répondrai que je vois à travers toutes ces questions, ces préoccupations, la nécessité de la généralisation de l'approche police de proximité. Parce que ça, c'est un mode vraiment qui place la police en face de la population. C'est un mode vraiment qui fait du policier le policier du quartier, le policier du milieu. C'est-à-dire un mode, n'est-ce pas, basé sur les principes de la proximité, de la prévention, du partenariat, du respect des droits de l'homme, de la redevabilité, etc., etc. C'est-à-dire que là, la population s'y est responsabilisée dans cette réforme de la police de s'engager pour que la police soit réellement transformée, le policier soit transformé. Donc, au niveau, sur le plan de la police de proximité, la population, la police travaille avec la population, les autorités politiques administratives, parce que la sécurité est une question commune qui appelle la collaboration de tous. Je dirais également que
Vous avez suivi le monsieur qui a dit, il appelle le commandant, il dit non, je dors, il faut envoyer l'argent.
Oui, mais bien sûr, s'il vous plaît, police de proximité signifie signifie que il y a la première règle de la police de proximité, c'est la gratuité des services. Mais la gratuité des services suppose que, quelque part là, il y a une subvention, il y a un fonds de fonctionnement. Mmh. Donc c'est pourquoi on ne pourra pas terminer cette émission sans appuyer également sur l'appropriation, l'implication du gouvernement, qui doit donner les moyens, premièrement, la rémunération du policier. S'il vous plaît, la rémunération du policier, quand je vois l'évaluation du PAC, montre justement un piétinement au niveau, par exemple, de la logistique. Et quand vous allez sur le terrain, donc si nous disons police, nouvelle police, la réforme, c'est-à-dire des équipements appropriés, les moyens pour rendre cette police proactive,
et ces moyens
aussi
ne suffisent
pas. Carburant qui
oui.
doit être toujours disponible. D'où il faut des moyens, et les moyens, c'est le gouvernement qui doit les donner. Et la population ne doit pas rester en reste, ni la société civile ne doit pas non plus croiser les bras.
Oui.
C'est tout le monde qui doit se mettre, et je terminerai pour dire
oui.
qu'il y a quand même quelques changements. Quand on regarde les grandes manifestations, jadis il y avait tellement d'abus, de commissions, n'est-ce pas, de tracasseries, des morts d'hommes. Mais aujourd'hui, quand la police intervient pour mettre la paix quelque part, il n'y a plus autant d'abus. Mais les abus qui existent, n'est-ce pas, nous devons arriver à les gérer tous. Il n'y a pas la police d'un côté, nous la population de l'autre, nous sommes ensemble et la société civile doit mener le plaidoyer fort pour que le gouvernement
pour que le financement
mette
suive.
La main à la poche
oui.
libérée pour que la réforme et tous ces défis, le plan d'action quinquennal, les actions prioritaires pour 2017
voilà.
puissent être réalisées.
Merci Madame Betty Mouya, coordonnatrice de suivi, évaluation, secrétariat exécutif à la commission de suivi de la réforme de la police. Nous disons également merci au commissaire supérieur principal et directeur des ressources humaines, Jean-Bosco Ndonda, Kindi, et nous disons aussi merci au commissaire supérieur adjoint Johnny Siadi Matonsi, conseiller juridique du commissaire général de la police. Merci et à la prochaine.
Merci.